Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aux États-Unis, deux femmes furent à l'origine de la parution en feuilleton du grand roman de James Joyce, Ulysse. Margaret Anderson et Jane Heap, les fondatrices de la Little Review, dans laquelle furent publiés quatre épisodes du roman entre mars 1918 et décembre 1920. Elles furent contraintes de paraître devant un tribunal qui condamna l'œuvre pour obscénité en 1921 et il fallut attendre un nouveau procès pour que le roman puisse enfin paraître aux États-Unis en 1933, puis en Grande-Bretagne en 1936. En France, ce sont également deux femmes qui œuvrèrent pour que le roman paraisse. La première, Sylvia Beach, fondatrice de la librairie Shakespeare & Company, au 12 de la rue de l'Odéon à Paris, publia l'œuvre originale en anglais en 1922. La seconde, Adrienne Monnier, directrice de la librairie La Maison des Amis du Livre, située au numéro 7 de la même rue, œuvra quant à elle à faire traduire le livre en français, entreprise qui dura 5 années, de 1924 à 1929, et fut confiée à un jeune poète, Auguste Morel, relu ensuite par Stuart Gilbert, puis Valérie Larbaud et pour finir Joyce lui-même. Reprise par les éditions Gallimard en 1937, c'est la traduction qu'on put lire en France jusqu'en 2004. Le 7 juillet 1948, Sylvia Beach et Adrienne Monnier racontaient le début de cette épopée sur les ondes de la radiodiffusion française et la tâche ô combien ardue de transcrire en français l'Odyssée de Léopold Bloom dans Dublin. On pourra juger de la difficulté par l'archive de la BBC diffusée à la toute fin de l'émission, dans laquelle on entendait Joyce lui-même lire un extrait du texte en anglais.
Pour un club des traducteurs, ce soir, 4e émission. La traduction de Ulysse de James Joyce, une production de Jacques Dombal, avec la participation de Sylvia Beach, Adrienne Monnier et Jean Costa.
Nous allons vous présenter aujourd'hui comme premier exemple des efforts et des réussites de la traduction contemporaine, celle qui a été faite entre 1922 et 1929 de l'Ulysse du grand écrivain irlandais James Joyce. Ouvrage extraordinaire, inventaire exhaustif de tous les faits, gestes, pensées, de toute la vie consciente et inconsciente, pendant une journée comme toutes les autres, d'un petit bourgeois de Dublin, Léopold Bloom. De Léopold Bloom, Joyce, avec un réalisme franc et un symbolisme complexe, s'est attaché à retracer les pérégrinations à travers sa ville natale, à la manière des voyages d'Ulysse à la recherche d'Ithaque, depuis le réveil de son fils Télémaque dans l'histoire Stephen Dedalus, jusqu'à l'heure tardive où il va rejoindre dans son lit une somnolente Pénélope. Nous avons la chance d'avoir ce soir au micro deux des personnes qui ont été le plus activement et le plus étroitement mêlées à l'histoire de ce livre. Miss Sylvia Beach, qui dans sa librairie de la rue de l'Odéon, à l'enseigne de Shakespeare and Company, osa la première, alors qu'Ulysse était proscrit en Amérique et en Angleterre, en donner une édition intégrale. Et mademoiselle Adrienne Monnier, qui sur le trottoir d'en face, dans sa maison des Amis des Livres, fut le témoin et, comme elle dit modestement, la première lectrice de la traduction qu'elle allait publier. Nous allons demander d'abord à Miss Beach de vouloir bien nous dire quelques mots des circonstances de sa rencontre avec James Joyce et de la publication du livre.
J'ai rencontré James Joyce pour la première fois chez le poète André Speer. Adrienne Monnier m'y avait amené et Ezra Pound y avait amené James Joyce et sa femme. Il était arrivé de Trieste avec sa famille et c'était en octobre 1920. Et il était chez Madame Ludmila Savitsky, qui lui avait prêté son appartement. C'est la traductrice de Dédalus et de Stephen, le héros, qui vient de paraître. J'étais très émue de voir ce grand écrivain, notre plus grand de langue anglaise. Et il était très amusé par le nom de ma librairie, le titre « Shakespeare and Company ». Il a dit qu'il viendrait tout de suite me voir et il est venu le lendemain, en effet. Alors, il est venu très souvent après cela et il me racontait ce qui arrivait à la publication de son livre en Amérique. Ulysse était en train de paraître dans The Little Review. Mais quatre fois, la police de New York l'avait supprimé. Et la quatrième fois, c'était supprimé définitivement. Il est venu un jour me dire, ça y est, Miss Anderson et Miss Heap ont été arrêtées, c'était les éditrices, et traînées devant le tribunal. Leurs empreintes digitales ont été faites et la revue a été supprimée, et mon livre aussi, naturellement. Alors, ce livre étant défendu en Angleterre, il ne restait qu'à la faire paraître en France. C'était obligatoire, notre chef-d'œuvre. Et naturellement, c'est en France le seul pays où on pouvait exprimer les choses de l'esprit avec liberté. Alors, je n'avais pas un sou. Je n'avais aucune expérience dans l'édition, mais heureusement, Adrienne Monnier était là et elle avait beaucoup d'expérience. Et tous les jours, je l'ai consultée et Joyce l'a appelée « The Business Advisor of Shakespeare and Company », conseiller d'affaires de Shakespeare and Company. J'ai parlé avec Maurice Darentière et j'ai décidé faire imprimer 1000 exemplaires. Joyce ne m'encourageait pas beaucoup, parce qu'il disait « Jamais vous ne vendrez un exemplaire de ce livre si ennuyeux. » Mais j'ai continué, j'ai envoyé les prospectus dans tous les pays. Et André Gide était un des premiers à venir souscrire à ma librairie. J'ai aussi reçu la souscription d'un nommé T.E. Lawrence, le fameux colonel Lawrence. Shaw, il s'appelait aussi. Et alors, Lawrence m'engueulait par chaque poste, beaucoup de lettres d'engueulade de lui parce que son exemplaire n'était pas encore venu et il ne comprenait pas pourquoi l'édition était en retard. Aussi, j'ai fait un pari avec Joyce. Nous avons parié, lui, que Bernard Shaw ne souscrirait pas et moi qui souscrirais. J'ai dit, cet homme qui soutient toujours les opprimés, il va sûrement souscrire. Alors, c'est Joyce qui a eu raison et qui a gagné un paquet de cigarettes, de ses favorites cigarettes, les Duretzke. Parce que Shaw n'a pas souscrit, il m'a écrit une lettre, aussi d'engueulade, dans laquelle il a exprimé une sorte d'horreur de la langue, du langage d'Ulysse. Il a dit que c'était très choquant et il était très déçu que Dublin était toujours comme ça, et il l'avait connu comme ça quand il était jeune. Et il a terminé en disant, « Et puis si vous croyez qu'un gentilhomme irlandais va payer un livre, n'importe lequel, 150 francs, vous vous trompez et vous ne nous connaissez pas. » Mais j'ai continué à recevoir des flots de souscriptions et bientôt j'avais plus de souscriptions que d'exemplaires. Et parmi les souscripteurs, il y avait beaucoup d'Irlandais.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Miss Beach. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous occuper d'Ulysses en tant que document humain, en tant que reconstruction exacte du point de vue psycho et physiologique de la journée d'un homme, ce qui nous intéresse et qui constitue sans doute la plus prodigieuse entreprise d'expression verbale qu'un prosateur de notre temps ait tentée. Quelle que soit la vérité psychologique et la profondeur humaine de cette peinture, il est clair que la matière valait moins aux yeux de Joyce que le jeu éblouissant des formes hardies, multiples et souvent inconnues auxquelles il la soumettait. Au récit traditionnel unilinéaire du romancier, il a substitué une suite de notations minutieuses et sans lien logique, l'énumération brute des couleurs, des sons, des odeurs, un monologue intérieur en apparence inorganique et encore, dans certains cas, des échanges de questions et de réponses inspirés du catéchisme et ailleurs des collections à la manière de, etc., etc. Tout cela posait aux traducteurs des difficultés inouïes et c'est comment ces difficultés ont pu être abordées et résolues que nous allons demander à Mademoiselle Monnier.
Vous pensez bien que ma première idée a été de faire traduire Ulysse. Dès que j'ai su par Sylvia qu'une telle œuvre existait et que j'ai vu quel enthousiasme était le sien, auquel enthousiasme avait succédé celui de Valérie Larbaud. Je me disais en effet, voilà un très grand livre et ce serait parfait de le faire traduire. Mais d'après tout ce que mes amis me disaient, car moi je savais très peu l'anglais, je voyais que la tâche était immense et peut-être insurmontable. Toujours est-il que notre première tentative de traduction remonte à décembre 1921. Nous avions décidé alors de faire une séance consacrée à James Joyce. Larbeau devait faire une conférence et il était indispensable de lire quelques fragments. Larbeau lui-même s'était attaqué à un passage très difficile, un passage d'Ulysse qui se passe dans un bar où il y a de charmantes filles, de barmaids, et tout le style est très musical, assez surréaliste même. Et Larbeau n'avait pas hésité à entreprendre cette traduction. Il avait d'ailleurs fait lire par un jeune acteur américain de passage à Paris le passage anglais correspondant pour donner aux gens une idée de cette musicalité si particulière du style de Joyce. Et nous avions pensé aussi, parce qu'enfin on annonçait la chose comme une œuvre très hardie, qu'il fallait donner un passage du fameux monologue de Pénélope qui clôt le livre. Et là, c'est un jeune ami à nous, qui s'appelait Jacques-Benoît Méchin, qui était un étudiant, qui savait admirablement l'anglais et admirablement l'allemand, ce qu'il a hélas très bien pour montrer après, qui s'était chargé du dégrossissement, on peut dire, de ce passage. Ce qu'il avait fait n'était pas très bon, il y avait mis surtout de la bonne volonté, mais nous avons trouvé ça assez insuffisant et surtout, il y avait des choses qui manquaient vraiment de hardiesse. Et Joyce, c'est Joyce lui-même qui a eu cette idée, nous a suggéré qu'on devait demander à Fargue, qui avait toujours une conversation si libre, si amusante et même souvent si rablaisienne, il a dit « Oh, mais Joyce, Fargue serait épatant s'il voulait s'occuper de ça ». Et en effet, Fargue a tout à fait accepté, avec beaucoup de bonne humeur, et en demandant naturellement de travailler avec Joyce, puisqu'il ne savait pas l'anglais. Et après je ne sais combien de lapins posés à Joyce, ils sont arrivés à un résultat, et c'est ce passage qu'on a lu. Et puis, un certain temps a passé, et en 1924, au moment de la fondation de la Belle Revue Commerce, qui paraissait sous la direction de Paul Valéry, de Léon-Paul Fargue et de Valérie Larbeau, nous eûmes cette idée qu'il fallait, dès le numéro 1, donner encore des fragments, mais cette fois beaucoup plus importants, d'Ulysse. Alors là, j'ai franchement embauché un jeune poète dont j'avais fait connaissance un an auparavant à peu près, qui s'appelait Auguste Morel. Auguste Morel m'avait communiqué des traductions de poèmes de John Donne qu'il avait traduit avec beaucoup de soin en français du XVIe siècle. Il me semblait tout à fait, lui-même aussi avait fait des poèmes très curieux et avec des recherches d'expression vraiment intéressantes. Je pensais qu'il pourrait se tirer de la chose. Je lui en parlais et il me dit « Oh oui, certainement, mais ça me semble bien difficile, ça va demander très longtemps, j'espère que vous n'êtes pas pressé. » Alors j'ai dit « Non, nous attendrons le temps qu'il faudra, vous prendrez tout le temps qu'il faut. » Il dit « Puis ailleurs, par ailleurs, j'aimerais bien que Larbeau puisse revoir la traduction, je ne suis pas très sûre de moi. » Et nous lui avons dit « Mais oui, en effet, Larbeau a accepté de revoir la traduction. » Alors, dans le numéro 1 de commerce, il y avait les 15 premières pages de sa traduction, à laquelle il s'était mis à peu près donc au printemps de 24. Et puis, Larbeau avait ajouté deux fragments des derniers chapitres qu'il avait traduits lui-même. Il avait pris en particulier tout à fait la fin du monologue de Pénélope, et cette fois, il l'avait retraduite complètement. Et alors, cette fois-là, il avait même apporté certaines hardiesses nouvelles. Naturellement, comme vous savez, il n'y a pas de ponctuation dans ce chapitre. Lui, donc, avait supprimé la ponctuation, mais il avait supprimé aussi tous les accents sur les mots et les apostrophes, ce qui faisait un effet étonnant. Par exemple, il écrivait « j'imagine », « l'Angélus », « l'Europe ». C'était très surprenant de voir ces mots sans apostrophe. Après la publication dans « Commerce », nous avons reçu, au siège même de la revue, qui était encore chez moi, une lettre de Stuart Gilbert qui nous disait à peu près ceci. « Je suis un Anglais, un fonctionnaire anglais en retraite, j'ai beaucoup de loisirs, et je suis un très grand admirateur de Joyce, je connais très bien les fragments d'Ulysse qui ont paru dans les reviews, et j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce qui a paru, la traduction parue dans Commerce. Il me semble qu'il y a là, enfin, c'est très bien, mais il me semble qu'il y a quelques contresens, et voulez-vous que je vous les signale? D'ailleurs, en voici quelques-uns. Et par la suite, si vous avez besoin de mes services, je serai tout à fait content de vous aider de la manière la plus désintéressée. Ce serait un plaisir pour moi. » Joyce avait accepté, d'ailleurs, il a tout de suite, il est entré en relation avec Stuart Gilbert, qui est devenu un de ses plus grands amis, et qui a été un ami admirable pour lui, absolument. Et donc, il était entendu que Stuart Gilbert reverrait le texte de Morel. Morel a travaillé seul 3 ans, de 1924 à 1927. En 1927, alors qu'il a eu achevé son travail, il ne pouvait pas aller plus loin lui-même, Il y a eu une première révision du texte en collaboration avec Stuart Gilbert, et même avec Larbeau, les quelques premières fois. Mais les séances étaient si orageuses que Larbeau se retira aussitôt. Parce que ce fait se produisait, c'est que Morel, qui avait demandé tout d'abord l'aide de Larbeau, s'était beaucoup attaché à sa traduction, et disait, eh bien, tant pis, s'il y a des fautes, il y aura des fautes, mais j'aime mieux qu'elles paraissent comme ça, avec seulement mon nom, et qu'il n'y ait aucune correction. Entre nous, ce n'était pas du tout le point de vue de Joyce, qui lui, fatalement, en tant qu'auteur, voulait la plus grande fidélité possible. Donc, avec des heurts et assez innombrables, cette révision s'est faite en 1927. Quand elle a été achevée, à la fin de l'année 27, on a dit à Larbeau, eh bien maintenant, est-ce que vous voulez y revoir? Alors Larbeau a dit oui, mais à condition que je fasse ça tout seul. Je ne veux pas le faire, n'est-ce pas? Envoyez-moi le texte et je le ferai. Il était alors en Italie, on lui a envoyé toute la copie de Morel, et il a fait sa révision, ce qui a duré à peu près 6 mois. Il l'a achevé à la fin de l'automne 28. Nous avons confié le texte définitif aussitôt à l'imprimeur Durand de Chartres, et le livre est sorti en février 29. Et c'est Stuart Gilbert et moi qui avons corrigé les épreuves durant les mois d'hiver.
Est-ce que vous pourriez nous donner un certain nombre d'exemples, des variantes qui ont été apportées au texte de la première traduction?
Oui.
Par exemple, ce qu'a pu ajouter Larbeau dans cette révision.
Oui, oui, la part de Larbeau a été naturellement très importante. Elle a surtout consisté à harmoniser le texte, à le polir. C'est naturel, un si parfait écrivain. Tantôt, il adoucissait ce qui était dur et forcé. Tantôt, au contraire, il cherchait à renforcer certains effets poétiques. Comme exemple du premier cas, je citerai « Un malheureux aliéné au lieu de « Un lamentable dingo ». Gronda-t-il au lieu de machena-t-il? Une grande théière au lieu de une ample théière? Le regard vacillant et surpris au lieu de les yeux clignotants et ébahis? Il avala avec un bruit de gargarisme au lieu de un bruit de cascade. Comme vous voyez, toujours dans Morel, c'est un peu forcé. Par ailleurs, Morel avait eu des réussites étonnantes, je n'ai pas besoin de le dire. Comme exemple de poli de forme, je citerai deux javelots de jour adoucis tombaient rayant le sol dallé, au lieu de deux flèches de jour tombaient moelleuses sur le sol dallé. Une lumière bienvenue et un air limpide entrèrent, au lieu de l'air et la lumière entrèrent salutaires. C'est quatre RRR, n'est-ce pas? C'est dur. Et je trouve encore ces deux notes communiquées à Joyce. Je vous avais montré ces petits papiers verts, n'est-ce pas, que Joyce envoyait, que Larbeau envoyait à Joyce d'Italie. Et par exemple, il lui demandait ceci pour l'expression « disorderly houses » que Morel avait traduit par « quelles infâmes turnes ». Larbeau proposait « maison de cohérence », ce qui était très amusant, n'est-ce pas, un néologisme. Et puis alors, pour ceci, par exemple, « here, wet the deck and wipe it round », qu'on pourrait traduire littéralement, mais ça ne voudrait rien dire, par « ici, arroser le pont et essuyer-le à la ronde », Morel avait mis « à la régalade les mecs ». Alors, Larbeau avait demandé à Joyce « est-ce que c'est correct ?» Et Larbeau, Joyce plutôt, avait répondu « mais oui, c'est correct, plus ou moins, mais ne pourrait-on trouver quelque chose dans l'argot des marins ?» Et Larbeau a mis, ce qui a été la rédaction définitive, à la régalade et qu'on se rince la dalle.
Ce qui est excellent. Charmant.
Eh bien, nous allons maintenant vous faire entendre en traduction, puis dans le texte, une page caractéristique de Ulysse, choisie par l'auteur lui-même avec prédilection. Elle est tirée du chapitre qui, dans les navigations de Leopold Bloom à travers Dublin, correspond à la rencontre de Ulysse avec Éole, dieu du vent. Le lieu de la scène et la salle de rédaction d'un grand journal. Là, bavarde éperdument un groupe de journalistes de tout poil et de tout acabit, mais d'une éloquence toujours prompte à jaillir en fusée ou en colibé, en air de bravoure et en déclamation parodique. Dans le brouhaha, le professeur MacHug s'évertue à essayer de citer le plus beau morceau oratoire qu'il lui eût jamais été donné d'entendre. C'était à propos d'une publication qui préconisait la renaissance de la langue irlandaise. Le juge Fitzgibbon l'avait désapprouvé. Un certain John F. Taylor se lève pour répondre et prononce un discours dans lequel, imitant la redondance de l'éloquence sacrée, il compare implicitement l'Irlande aux Juifs de Moïse et l'Angleterre aux Égyptiens du Pharaon. De ce discours, nous possédons une page enregistrée par la voix de Joyce lui-même, dont vous allez entendre un court fragment après que nous vous aurons donné lecture de sa traduction.
Il commença. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde admiration que je viens d'entendre les observations adressées il y a un instant par mon savant ami à la jeunesse d'Irlande. Il me parut que j'étais transporté dans un pays bien éloigné de celui-ci, à une époque combien distante de la nôtre, que je me trouvais dans la vieille Égypte, écoutant le discours que tenait un des grands prêtres de cette nation, au juvénile Moïse. Ils écoutaient, cigarettes en suspens, fumée montant en frêle tige qui s'épanouissait avec son éloquence. Noble phrase en perspective. Voyons, serais-tu capable d'en faire autant ? Et il me parut que j'entendais la voix de ce grand prêtre égyptien s'élever à des accents d'une égale arrogance et d'un égal orgueil. J'entendais ses paroles et leur signification me fut révélée. D'après les pères, il me fut révélé que sont bonnes ces choses qui cependant sont corrompues, qui fussent-elles suprêmement bonnes ou ne fussent-elles bonnes, ne sauraient être corrompues. Malédiction du Saint-Augustin. Pourquoi ne voulez-vous pas, vous autres juifs, acceptez notre culture, notre religion et notre langage. Vous êtes une tribu de pasteurs nomades. Nous sommes un peuple puissant. Vous n'avez ni ville ni richesse. Nos cités sont des ruches d'humanité. Et nos galères trirèmes et quadrirèmes, les flancs chargés de tous les trésors du négoce, labourent les mers du monde connu. Vous sortez à peine de l'état primitif. Nous avons une littérature, un sacerdoce, une histoire millénaire et une constitution. Le Nil, enfant. Homme effigie. Sur la rive du Nil, les matrones s'agenouillent, berceau de roseaux. Un homme agile dans le combat, corne de pierre, barbe de pierre son cœur. Vous invoquez une idole obscure connue de vous seul. Nos temples, dans leur majesté et leur mystère, abritent Isis et Osiris, Horus et Amon-Ra. À vous la servitude, la crainte et l'humilité. À nous la foudre et les mers. Débile est Israël et petit le nombre de ses enfants. L'Égypte est une armée et redoutable sont ses armes. Vagabonds et mercenaires, c'est ainsi qu'on vous appelle. Notre nom fait trembler le monde. Un roux muet venu de son estomac vide lui coupa la parole, sur quoi hardiment il haussa le ton. Cependant, mesdames et messieurs, le juvénile Moïse eût-il prêté l'oreille et admis cette façon de voir ? Eût-il courbé la tête et soumis sa volonté et son esprit même à cette insolente exhortation qu'il n'aurait jamais délivré le peuple élu de la maison de son esclavage, ni suivi de jour la colonne de nuée. Il n'aurait jamais conversé avec l'Éternel parmi les éclairs sur le sommet du Sinaï et n'en serait point redescendu le visage éclairé par les feux de l'inspiration et portant entre ses bras les tables de la loi gravées dans la langue des hors-la-loi.
And bowed his spirit before that arrogant admonition. He would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw.
C'était « Pour un club des traducteurs, Ulysse » de Joyce, par Jacques Dombal, avec Sylvia Beach, Adrienne Monnier et Jean Costa, première diffusion sur la chaîne nationale le 6 juillet 1948. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.